Afrique, les infos. À Washington.
Avec vous, Henri Francisque, midi à Bamako, 13h à Bangui. Bienvenue à notre journal. On commence par l'actualité américaine et le bras de fer commercial entre les États-Unis et la Chine. Pékin a commencé à imposer des droits de douane en rétorsion après le lancement ce vendredi par Washington d'une guerre commerciale contre le géant asiatique. C'est ce qu'a annoncé le ministère chinois des Affaires étrangères. La Chine n'a pas voulu donner de détails sur le montant de ces rudes mesures de rétorsion, mais Pékin avait averti précédemment qu'il imposerait des taxes sur 34 milliards d'importations américaines, rendant ainsi coup pour coup à Washington. Le point avec Abdourahmane Dia.
Les tarifs douaniers américains de 25% sur 34 milliards de dollars d'importations chinoises frappent plus de 800 produits, dont des voitures, des composants d'avions ou des disques durs d'ordinateurs, tout en épargnant des biens populaires comme les téléphones portables ou les téléviseurs. Côté chinois, ce sont des produits agricoles américains comme le soja, le secteur automobile ou encore des produits de la mer comme les langoustes qui seront frappés de taxes douanières d'une valeur égale. Les deux premières puissances économiques du monde ne devraient pas en rester là, puisque Donald Trump a demandé à son administration d'identifier 200 milliards de dollars de produits chinois en vue de tarifs supplémentaires de 10% applicables avant la fin de l'été.
Le président Trump s'est déclaré prêt ces dernières semaines à imposer des taxes supplémentaires jusqu'à un total de 450 milliards de dollars de produits chinois, soit l'essentiel des importations venant de Chine si Pékin venait à répliquer aux droits de douane de Washington. Afrique maintenant, en RCA, Médecins sans frontières, MSF, a annoncé ce vendredi suspendre ses activités à Bria dans le centre du pays à la suite du braquage de sa base dans la nuit de mercredi à jeudi par des hommes armés. Jean-Pierre Caposso, coordinateur MSF à Bria, a déclaré dans un communiqué que ces attaques répétées empêchent les équipes de l'ONG humanitaire de fournir les soins essentiels dont la population a besoin. C'est le deuxième incident grave en moins de 3 mois dont MSF est victime à Bria. La base de l'organisation ayant déjà été attaquée au mois d'avril, souligne le texte. Bria, chef-lieu de la haute coteau réputée riche en or et en diamants, est sous la coupe de différents groupes armés qui se battent régulièrement pour le contrôle des ressources naturelles. Mali, le commandant de la force conjointe du G5 Sahel, le général malien Didier Dakouo, et son adjoint, le colonel-major burkinabé Séré Yaya, ont été relevés de leurs fonctions par les chefs d'État du G5 Sahel. Selon notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré, ces sanctions avaient été suggérées lors des consultations à Nouakchott entre le président français Emmanuel Macron et ses homologues du G5 Sahel en marge du sommet de l'Union africaine.
Certaines décisions ont été prises lors de la rencontre des chefs d'État du G5 Sahel en marge du sommet de l'UA qui s'est tenu la semaine passée à Nouakchott. Le commandant de la force du G5 Sahel, le général malien Didier Dakou, a été relevé de ses fonctions, ainsi que son adjoint, le colonel-major burkinabé Séré Yaya. Le massacre des civils des troupes maliennes de la force G5 Sahel à Boulkessi est l'une des causes. L'attaque du camp de Sévaré a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Selon le président français, il s'agit de donner un choc psychologique en changeant tout le commandement de la force G5 Sahel. Et c'est le Tchad qui a été désigné pour remplacer le chef d'état-major général du G5 Sahel. Certains officiers à Bamako parlent d'une rotation normale à la tête de la force conjointe, mais les diplomates occidentaux sont très clairs. Il s'agit d'une sanction pour faute grave parce que le bâtiment du G5 Sahel basé à Sévaré n'avait aucun dispositif sécuritaire efficace pour faire face aux attaques. Kassim Traoré, VOA Afrique.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Place maintenant au journal de la Coupe du Monde de football Russie 2018. Nous en sommes maintenant au match de quart de finale. Yacouba Ouedraogo.
Bonjour à tous et bienvenue au Journal du Mondial. Nous sommes au jour de match. Les deux premiers quarts de finale se jouent aujourd'hui. À 14h temps universel, la France fera face à l'Uruguay. L'attaquant uruguayen Edinson Cavani, très incertain, s'est entraîné hier pour la première fois depuis sa blessure contre le Portugal samedi dernier. El Matador a enchaîné les allers-retours en marchant puis trottinant, sans boiter mais sans non plus courir à haute intensité dans un coin du terrain pendant que ses coéquipiers s'entraînaient sur l'autre moitié de la pelouse. L'équation Edinson Cavani s'est invité en conférence de presse d'avant-match et le sélectionneur des Bleus n'a pas échappé à la question. Voici la réponse de Didier Deschamps.
Je prépare mon équipe dans le cas de figure où il y a Cavani. Il y sera, il y sera pas. Je le saurai qu'une heure et demie avant le match. À moins que vous pouvez m'affirmer qu'il y soit ou qu'il y soit pas. Mais s'il est pas là, voilà, il y a d'autres options. Oscar Tabarès a d'autres options. Estuani, notamment, qui est aussi un très très bon attaquant. 21 buts avec Girona, dont 10 buts de la tête. Il a une option avec Rodriguez aussi, qui est différente, différents profils. Je prépare mon équipe avec ces différentes options. En début de match, mais qui peuvent intervenir aussi en cours de match.
Côté supporters, le ton monte petit à petit et quelques fans français présents à l'arrivée hier des Bleus à leur base à Nizhny ont donné de la voix.
J'habite Lyon et on est venus les deux frères et on est venus supporter l'équipe de France. Ils ont fait un très bon match. Très très bon match en quart de finale, meilleur match de ma vie que j'ai vu. Et j'y crois avec l'attaque qu'on a, je pense qu'on va y arriver et on va voir la demi et la finale et on va la gagner cette Coupe du Monde.
Même ambiance côté uruguayen, écoutons les réactions de quelques fans.
C'est l'été Sojo.
C'est un match entre deux équipes. Nous avons une grande défense. Malheureusement, je ne pense pas que Cavani va jouer. Je veux dire, je ne sais pas. Certainement, ça va être une grosse perte pour nous, mais je pense que nous pouvons tout de même relever le défi. L'équipe est mentalement très forte. Les joueurs savent qu'il va leur manquer, mais ils vont jouer à fond, ne serait-ce que pour lui faire plaisir, même s'il n'est pas sur le terrain.
Je pense que l'équipe qui va gagner demain, la France ou l'Uruguay, a une grande chance d'être en finale. Et quel que soit l'adversaire en demi-finale, la Belgique ou le Brésil, le vainqueur du match France-Uruguay va être le champion.
Un peu plus tard à 18h, temps universel, on aura l'autre quart de la soirée entre le Brésil et la Belgique. Après un démarrage poussif, le Brésil est monté en puissance dans la compétition, comme sa star Neymar, beaucoup critiqué. Bien évidemment, il bénéficie du soutien de son sélectionneur Tite.
Vous devez regarder la vidéo. Tout ce que vous avez à faire, c'est de regarder les images. Je serais heureux de le voir jouer à son meilleur niveau et même plus. Même s'il s'agit pas seulement d'avoir le ballon et de faire des dribbles, il y a d'autres actions et si vous observez bien, vous allez voir comment il participe collectivement à la récupération du ballon. Parfois dans les contre-attaques, je ne veux pas nécessairement voir contre-attaquer comme il le fait, mais il privilégie le sens du travail en équipe, ce qui est la meilleure vertu.
Brésil-Belgique, c'est le coup de sifflet de Jules Valentin Ngoué depuis Libreville au Gabon.
Bonjour. Les matchs Belgique-Brésil sont aussi rares que des pipis de chat et se soldent généralement par la victoire des Brésiliens. Mais pour le second quart de finale qui se dispute à Kazan, les données ont quelque peu évolué. La stratégie des Brésiliens a changé avec ses avantages et ses inconvénients. Si l'équipe défend nettement mieux et a choisi de jouer la prudence et la patience, par contre, sa créativité légendaire et sa capacité de réaction, surtout quand l'adversaire vient à marquer le premier dans un match à élimination directe, a diminué. Ce qui peut parfois être fatal à la sélection, et cela fut le cas en 2006, en 2010, respectivement contre la France de Zidane et les Pays-Bas d'Arjen Robben, qui trouvèrent la faille assez tardivement. Or, la Belgique, que le quintuple champion du monde va affronter vendredi, se trouve dans la même configuration que les Pays-Bas de 2010 en Afrique du Sud. Tout d'abord, il y a cette constellation de sable tournée vers l'offensive, mais aussi ce statut enviable d'outsider qui n'a rien à perdre et ne subit aucune pression. En face, le Brésil a perdu le ratisseur Casemiro, suspendu, certes remplacé par le solide Fernandinho, mais celui-ci commet souvent des fautes à une distance que les artificiers belges De Bruyne, Mertens ou Hazard peuvent exploiter. Le Brésil qui ne cache pas son objectif de ramener immédiatement le trophée pour montrer que l'effondrement devant l'Allemagne en 2014 n'était qu'un accident trouve là l'occasion de confirmer ses ambitions.
Demain se joueront les deux autres quarts de finale entre l'Angleterre et la Suède à 14h temps universel à Samara et Russie-Croatie à Sotchi à 18h. C'est ici qu'on s'arrête pour ce journal du Mondial.
Vous êtes à l'écoute de VOA Afrique.
Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com. Vous pouvez également nous joindre sur notre page Facebook.